Mais il est complètement fou, ce mec.
Alors promets-moi de pas bouger. Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'ouest, une émission animée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Complètement à l'Ouest, l'émission de Radio Immo où l'on parle de tout sauf d'immobilier parce que ça fait aussi du bien de découvrir le monde et d'analyser la société qui nous entoure. C'est aussi un petit peu ça, l'immobilier. Et pour ce faire, eh bien, je suis toujours en compagnie de Philippe Boyer. Bonjour Philippe.
Bonjour Johanna.
On va parler performance aujourd'hui.
On va parler intelligence et justement, on doit au romancier Emmanuel Carrère l'ouvrage intitulé Limonov. Prix Renaudot 2011, Limonov, c'est le récit de la vie d'un personnage réel, une vie hors du commun, tour à tour voyou en Ukraine, idole de l'underground soviétique sous Brejnev, poète à Moscou, mannequin, clochard, valet de chambre d'un milliardaire à New York, écrivain branché à Paris, soldat perdu dans les guerres des Balkans, et puis, j'arrête là, chef charismatique d'un parti de jeunes desesperados. Une vie bien remplie. La vie bouillonnante d'un homme qui a capté la lumière et qui semble posséder quelque chose de plus grand, quelque chose qui le rend exceptionnel, qui semble avoir mis toutes ses forces au service de l'action et de la vie. C'est de ces personnages exceptionnels, de ces personnages que l'on qualifie souvent de brillantes, intelligentes, bref, de ces personnes performantes dont nous allons parler aujourd'hui en compagnie de Fanny Nussbaum. C'est parti, droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Philippe,
nous sommes ravis de vous accueillir à l'occasion de cette nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. Alors, vous publiez aux éditions Odile Jacob Le secret des performants et j'ajoute que vous êtes docteur en psychologie et chercheur en neurosciences à l'Université Lyon 1 et que vous avez fondé et que vous dirigez également le centre et le fonds Sirène, institution qui s'intéresse à l'intelligence. Mais avant que vous nous expliquiez qui sont et comment devient-on hyper performant, nous avons pour habitude d'entamer cette émission par un court extrait sonore et vous allez l'entendre, il va être question de ce que vous évoquez dans votre livre, c'est-à-dire d'intelligence, mais aussi de génie et de créativité.
Des hommes vont venir et ils voudront apprendre des choses. Or, ça ne les rend pas plus intelligents. Alors laisse-les parler et continue à faire exactement comme tu l'entends. Un jour, tu verras, tu seras seul. Tu dois donc apprendre à te protéger et à prendre soin de toi. Pouvez-vous dire au lecteur de Life ce que ça fait ? Je veux dire, être une femme. Au milieu de tous ces hommes.
Je m'en fiche. On n'est pas tout le temps en compétition. Les échecs peuvent également être... magnifiques.
Vous êtes orpheline, Bess.
J'aime bien être seule. Je me sens en sécurité. C'est tout un univers qui se retrouve dans 64 cases.
Mademoiselle Hormone, Bess.
Psychose et créativité vont très souvent de concert. D'ailleurs, c'est pareil pour... le génie et la folie.
Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de la bande-annonce de la série Le jeu de la dame, diffusée sur Netflix. Cette fiction suit Elizabeth Arnon, une prodige des échecs, qui n'a qu'une idée en tête, devenir la meilleure joueuse d'échecs du monde, tout en luttant contre ses démons, ses problèmes émotionnels et sa dépendance aux drogues et à l'alcool. Fanny Nussbaum, il y a un moment dans cette bande-annonce où l'on parle d'intelligence et votre ouvrage a pour thème la performance. Et nous allons longuement évoquer cette notion au cours de cet entretien. Mais j'aimerais d'abord que l'on commence sur cette notion d'intelligence, notion difficile à définir et à quantifier. Il y a dans votre livre cette idée novatrice, pour ne pas dire contre-intuitive, selon laquelle, je vous cite, « l'intelligence est un état et que, comme tous les états, elle varie, elle évolue de façon fluctuante au cours d'une journée, d'une vie. C'est un état qui se produit dans la rencontre entre un individu et un écosystème. » Alors, on pensait tous que l'intelligence était une, j'allais dire, invariable, objectivement mesurable via des tests, celui notamment du QI. Mais vous dites que non. Et sur quoi repose votre affirmation que l'intelligence est en fait un phénomène de circonstance, un état ?
Bien, ça repose sur l'idée qu'on a confondu jusqu'à présent deux notions qui sont la notion de capacité et la notion d'intelligence. En fait, jusqu'à présent, quand on évaluait par exemple un QI, on sait qu'on évaluait des capacités de raisonnement. Mais ces capacités de raisonnement, donc elles sont bien évaluées, enfin correctement évaluées. Ce test est tout à fait solide, robuste dans ce qu'il propose. En revanche, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on appelle ces fonctions de raisonnement intelligence. Donc toutes les capacités, alors quand on parle de la grande intelligence, l'intelligence avec un grand I, en général, on parle de ces fonctions de raisonnement. On parle de personnes qui savent penser, qui sont capables de penser, de pousser un raisonnement très loin. Et puis, quand on parle d'autres types d'intelligence, comme peut dire Howard Gardner, par exemple, il nous dit, alors il y a l'intelligence de ceci, de cela, l'intelligence de verbale, l'intelligence intuitive, l'intelligence ceci, cela, émotionnelle. Donc, Daniel Goleman a ouvert la voie de l'intelligence émotionnelle. Eh bien, ce que je dis, c'est qu'en fait, il y a une confusion entre ce qui sont des capacités, parce que même pour l'intelligence émotionnelle, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, on voit seulement une capacité à être mieux en relation avec les autres, ou à mieux comprendre les autres que la plupart des gens. Et donc, ce n'est pas une intelligence. Quand on pense tous à intelligence, on pense à une sorte de magic touch, de quelque chose qui se passe et qui va tout d'un coup nous révéler ses capacités. Ce n'est pas la capacité elle-même qu'on met en avant. Donc, c'est là que je m'inscris en faux, en disant il y a une différence entre les capacités et l'intelligence. Mais pour l'instant, l'intelligence est très peu définie, ou je trouve très mal définie. Les tests de QI, ça appelle quand même, pour nous Européens, le test de QI classique, ça s'appelle une échelle de Wechsler. Et en fait, quand on lit l'acronyme de l'échelle de Wechsler, c'est Wechsler Intelligence Scale. Hein, donc, c'est vraiment, on a fait cette confusion vraiment même dans la manière d'appeler le test de QI, qui n'est finalement qu'un test qui évalue des capacités de raisonnement. Donc, voilà d'où vient cette idée sur l'intelligence, c'est pas ça.
On entendait tout à l'heure la bande-annonce de la série Le jeu de la dame, qui faisait le parallèle entre psychose et créativité, mais également entre génie et folie. Alors vous, Fanny, quel parallèle ou quelle différence même faites-vous entre intelligence et génie ?
Alors d'abord, pour répondre à votre question, Johanna, il faut que j'explique quelle est ma définition de l'intelligence, ou ce que je vois dans l'intelligence, qui est forcément vrai puisque c'est moi qui le dis. Alors en fait, l'intelligence, je le perçois, comme vous l'avez dit, Philippe, comme un état. L'intelligence, c'est un état dans lequel on peut tous être, qu'on a tous connu à des moments où là, je crois que le courant passe bien entre nous, on se sent tous plutôt bien dans cette relation, donc les idées viennent plutôt facilement, ça déroule, on est plutôt à l'aise, le corps est plutôt vous voyez qu'on est, je trouve qu'on bah, on a tous les bras ouverts, on est tous plutôt à l'aise dans notre corps,
à l'écoute.
Donc ça, à l'écoute, et puis surtout bien, on se sent pas étriqué dans son corps, et puis avec cet esprit grippé qu'on peut avoir parfois dans d'autres moments. Donc là, on peut dire qu'on est en intelligence. Vous et moi, on est dans cet état d'intelligence qui fait que tout est plus facile, que tout coule. Donc, cette interaction entre nous et cet écosystème que nous avons créé est plutôt fructueuse, valorisante, bonne. Voilà, c'est un cercle vertueux, on pourrait dire. Donc, on est dans cet état d'intelligence. Et puis, il y a des moments où on n'est pas en état d'intelligence. Et dans ces moments-là, eh bien, comme je le disais, on va avoir l'esprit grippé, les idées vont pas venir facilement, on va pas être...
Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va être précisément dans ce moment d'intelligence ?
Eh bien, c'est il y a plusieurs choses. Il y a d'abord l'écosystème dans lequel on se trouve. Il y a des écosystèmes qui favorisent plus l'intelligence que d'autres. Et en fait, ce que je pense, c'est que l'écosystème qui favorise le plus l'intelligence, c'est celui qui va permettre le plus la différenciation, qui va permettre le plus à chacun de se différencier en tant qu'un individu à part entière. Donc, plus il y a de différenciation et on va vers la performance, mais j'ai pas encore répondu à votre question, Johanna. Et plus on va vers l'intelligence. Et la différenciation, c'est pas vouloir être différent à tout prix, c'est chercher simplement à ce que ses propres capacités soient révélées. Donc on a tous des capacités. Qui va avoir des capacités de raisonnement, et là j'arrive à la réponse, qui va avoir des capacités de raisonnement, ce que j'appelle moi, c'était mon livre précédent, les philocognitifs, qui ont peut-être cette boulimie de pensée, ce besoin de penser, d'extrapoler, d'aller plus loin dans le raisonnement. Donc ceux qu'on appelait les intelligents autrefois, les philocognitifs, moi je dis que évidemment ils existent, je les adore et je crois que j'en fais partie, mais c'est pas forcément eux les intelligents. Donc il y a on va avoir différentes capacités de philocognition ou de raisonnement, capacité à être en relation avec autrui, capacité à entendre la musique et à la produire, etc. Enfin, on peut avoir des tonnes et des tonnes de capacités, mais ça ne fait pas l'intelligence. Comme je peux citer une marque ou pas ?
Allez-y, bien sûr.
Ferrari, comme une Ferrari qui a plein de capacités, mais qui, quand elle est à l'arrêt ou quand elle est sur une route de montagne, ne va pas être en intelligence, ne va pas produire le meilleur d'elle-même. Donc l'intelligence, c'est cet état dans lequel on va se trouver et qui va nous permettre à chacun de révéler nos capacités.
Donc c'est un moment de voir où finalement tout est réuni, c'est ça ?
Exactement, qui demande un travail quand même, hein, qui demande qu'on soit comme qu'on ait fourni un effort pour pouvoir être là tous et répondre. Enfin, c'est pas seulement on n'attend pas la grâce, mais au moment où l'intelligence se produit, eh bien on déroule sur ce qu'on sait faire et ce qu'on sait être.
Est-ce qu'un lieu peut favoriser l'intelligence, le fait de se sentir bien quelque part, que l'on soit en communion, j'allais dire en lien les uns avec les autres, peut-il être favorisé par un lieu?
Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'on a tous vécu ici le fait d'arriver dans un pays étranger et de se dire « mais waouh, je me sens chez moi ici ». Et à l'inverse, d'arriver dans un pays étranger et de se dire « non, alors là, c'est pas ma maison ici ». En fait, c'est ça, hein, l'écosystème de l'intelligence. Et puis, on parlera de la performance ensuite, mais j'ai toujours pas répondu à votre question.
On va parler de performance tout de suite après.
Ok. Donc, c'est ça, hein, cet écosystème qui va... Il y a des lieux, on pourrait même dire des espaces-temps qui sont des espaces-temps vraiment favorables à l'intelligence. Et puis d'autres qui ne le sont pas. Et je pense que les lieux ou les espaces-temps qui recherchent trop l'intégration plutôt que la différenciation sont moins propices à la performance que l'inverse. Donc je réponds à la question de Johanna. Donc vous me parliez du génie et de la créativité.
Donc du coup on a défini l'intelligence.
Oui.
Le génie, c'est tout ça poussé à son paroxysme ?
Eh bien pas du tout.
Mais c'est parfait, vous êtes là pour ça.
Donc, le génie, en fait, c'est au même titre que la philocognition ou que les capacités relationnelles, émotionnelles, c'est une capacité qu'on a à être visionnaire. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un génie ? C'est quelqu'un... Il y a deux éléments chez le génie qu'on peut voir. C'est premièrement une précocité dans les acquisitions. Pour le coup, alors je lutte contre le terme précoce pour parler des philocognitifs qu'on appelait autrefois zèbre, etc. Zèbre surdoué au potentiel, etc. Je lutte contre précoce parce que ça n'est pas adapté, puisque sur le plan cérébral, il n'y a pas de précocité, il n'y a pas d'avance de maturité, mais là il y a une avance d'acquisition dans les acquisitions, un Mozart qui va très très tôt être capable de jouer une symphonie, etc. Donc il y a la précocité, premièrement, et deuxièmement, il y a ce côté visionnaire. Donc il y a le passé, enfin le passé ou l'avance plutôt, et l'avance aussi en allant voir dans le futur. Ce sont des gens qui arrivent à se déplacer dans le futur et à nous rapporter dans le présent quelque chose qui avec la machine à remonter le temps.
Un personnage, pour citer un exemple, pour donner un exemple,
Léonard de Vinci, par exemple, je ne sais même pas si j'ai besoin d'en donner d'autres, mais... Je dirais aussi Albert Einstein, mais ça, ce sont ceux qu'on connaît. Donc, ça me permet de répondre à la question. C'est il y a des génies qui sont en intelligence. Un Picasso, par exemple, un Picasso a pu nous rapporter son génie et le faire voir au monde. L'intelligence, étant donné que c'est une interaction, vous avez vu que c'est un espace-temps, donc ça veut dire que c'est très ancré dans le quotidien, dans l'ici et maintenant. Donc Picasso a pu montrer au monde ce qu'il avait à montrer. En revanche, par exemple, Vincent Van Gogh, puisqu'on est dans les peintres, Vincent Van Gogh, lui, était un génie. Je crois qu'on ne peut pas trop en douter. En revanche, il n'était pas en intelligence, dans le sens où il n'a pas pu, dans l'ici et maintenant, être en phase avec son écosystème suffisamment pour que ce qu'il a créé soit vu. Donc, il est des génies qui sont en intelligence, et il en est qui sont et qui resteront peut-être toujours méconnus et dont on n'aura pas pu avoir la chance de voir les œuvres, quelles qu'elles soient.
Alors, en venons-en à la question de la performance qui est au cœur de votre ouvrage, « Le secret des performants » chez Odile Jacob. Une question évidente, autant il est facile de voir ce que peut être une entreprise performante, la progression de ses résultats, sa pérennité. Il y a d'ailleurs cet ancien slogan de Michelin, les plus belles performances sont celles qui durent. Ça me semble assez facile également d'un sportif et assez évident. Mais il me semble qu'il n'est pas, pour le coup, évident de définir ce qu'est, ce que serait, ce que doit être un individu performant. C'est quoi la performance et où commence-t-elle ?
La performance commence avec l'effet waouh. C'est vraiment simple. Quand on commence à pouvoir dire waouh, quand on voit ce que fait quelqu'un, alors la performance commence. La performance, c'est un consensus, puisque ça fait partie, en fait, la performance est, selon mon modèle, le plus haut degré de l'état d'intelligence. Donc, c'est le graal de l'intelligence. Donc, c'est pour ça que je dis souvent par provocation, mais j'y crois profondément, que Kim Kardashian, Franck Ribéry, Nabila sont beaucoup plus intelligents que nous trois réunis. Voilà, la performance est un consensus. Pour qu'il y ait performance, on peut être un génie seul dans sa chambre, mais on ne peut pas être performant seul dans sa chambre. Donc, la performance, c'est... En fait, je distingue trois états ou trois sous-états de l'état d'intelligence qui sont au plus bas, quand justement on n'est pas raccord avec son environnement, on est quand même en interaction, mais c'est une interaction qui n'est pas fructueuse. Donc là, quand on n'est pas en phase avec son environnement, j'ai appelé ça l'antiphase, j'ai été très, très créative ce jour-là. on vit plutôt l'échec, le rejet, on est en rejet de tout. Alors même si on est un super philo cognitif, mais là, à ce moment-là, on va se prendre la tête sur plein de sujets pour rien, on va rester dans le raisonnement pour le raisonnement, on est dans la critique, voilà. Le niveau du milieu, c'est la compétence. La compétence, c'est... vous et moi, là, maintenant. Là, on est en compétence, on est plutôt adapté, on est plutôt on se répond correctement, on est dans quelque chose de plutôt fluide, mais on n'est pas en train de créer quelque chose qui fait un effet waouh.
On n'est pas performant, ce que vous dites.
Alors, je sais pas, peut-être c'est ça. Alors, peut-être les auditeurs diront, mais pas du tout. Et là, on saura après coup qu'on aura été en performance, mais pour l'instant, on va se dire qu'on est en train de créer un truc très chouette et on est en compétence. Mais on n'est pas en train de révolutionner le monde. Enfin, moi je le révolutionne par ce livre extraordinaire. et puis il y a la performance, c'est cet état où tout d'un coup, alors je donne dans le livre la métaphore de la balançoire, où là on est en résonance presque parfaite. La balançoire, vous savez, la résonance, ce sont tous les mouvements oscillatoires. Donc quand la balançoire se balance tranquillou milou, eh bien on va être en compétence. Quand la balançoire est toute brinque-ballante parce que la fréquence d'excitation ne se rapproche pas assez de la fréquence propre, eh bien là on va être je me prends pour Étienne Klein, vous en avez parlé tout à l'heure. Donc à ce moment-là, on est en antiphase. Et puis quand on est sur la balançoire et que tout d'un coup les pieds touchent le ciel, et que quand on remonte, quand on va vers l'avant, le cœur se soulève, il y a de l'élan. Et en fait, cet élan, qu'est-ce que c'est? C'est une accumulation d'énergie, de puissance, hein, parce que la résonance, c'est ça, c'est une accumulation d'énergie. Donc là, j'ai appelé ça la puissantisation pour arriver à la performance. C'est une accumulation d'énergie. Et vous avez vu que quand vous êtes sur la balançoire et vous devez pousser très fort au départ, hein, c'est mécanique, vous devez vous insuffler beaucoup d'énergie. Injecter beaucoup d'énergie. Et puis ensuite, quand vous touchez les étoiles avec vos pieds, quand vous êtes sur la balançoire, là, il n'y a plus qu'une pitchnette à effectuer. Et puis ça va tout seul. Pourquoi? Parce que la balançoire a accumulé suffisamment de puissance. Donc, c'est ça la puissantisation. On pourrait parler de volonté de puissance à façon Nietzsche. Il y a cette puissantisation qui fait qu'on touche les étoiles. C'est ça la performance. Et tout d'un coup, tout déroule, tout est facile à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de travail avant.
Il y a eu un
gros effort pour pousser la balançoire. Mais à ce moment-là, on déroule et qu'est-ce qui se passe? On ouvre le champ et on est connecté à l'environnement. Et quand on est connecté à l'environnement, on n'a plus besoin de raisonner, de réfléchir. Au contraire, ça devient une entrave de raisonner, de réfléchir, d'être là, circonspect, sceptique par rapport à son environnement. À ce moment-là, on est en phase avec l'univers. Et quand on est en phase avec l'univers, je deviens Madame Irma, on performe.
On est à l'écoute. Alors, vous dites, page 67, qu'il existe, et je vous cite, un pattern, une structure de la performance, un ensemble de propriétés cognito-comportementales qui peuvent s'activer dans un environnement donné, c'est ce que vous disiez. Quelles sont ces propriétés cognito-comportementales que vous citez? Et idéalement, dans quel environnement devons-nous être pour espérer être au top de nos performances?
Alors, il y a, en fait, pour accéder à l'état d'intelligence, il y a trois états qui vont nous le permettre. C'est l'état d'énergie, l'état de conscience et l'état émotionnel. Au niveau de l'énergie, un performant, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire, puisque c'est un état, on ne peut pas être un performant. Eh bien, si. Parce que un performant, c'est quelqu'un qui va réussir plus que vous et moi à cumuler des états de performance. Pendant un certain temps, un temps suffisamment long, cumuler les wow. Donc, pour être un performant ou un performant vous dira que au niveau de son énergie, en général, il est dans une énergie hyperactive. L'hyperactivité, c'est pas forcément l'instabilité motrice, c'est aussi quand on traite en simultané. Le traitement en simultané fait partie de l'hyperactivité. Donc les hyperactifs traitent en simultané, ça va avec la conscience totale aussi, et ils sont dans cette énergie qui fait que une fois qu'ils ont fait le tour d'un sujet, une fois qu'ils ont raisonné, peut-être avec AI et pas E, une fois qu'ils ont raisonné, ils se lancent plus vite que vous et moi. Ils vont déclencher plus vite que vous et moi. Ils n'ont pas besoin que ce soit complètement abouti dans leur esprit.
Ils ont intégré plein d'informations.
C'est ça, mais ils les ont intégrés de façon intuitive, c'est-à-dire que c'est selon Daniel Kahneman qui parle du système 1 et du système 2, cet esprit à deux vitesses, l'esprit qui va très vite, qui est le système 1 et qui nous permet d'avoir des automatismes mentaux, et le système 2 qui est plutôt principalement préfrontal et qui lui va être celui du labeur, du raisonnement construit, etc. Eh bien, le performant, lui, il repasse très vite en système 1, c'est-à-dire dans ce système très rapide de prise de décision. Et l'étude que je suis en train de mener avec mon acolyte de toujours, Dominique Sapé-Marinier, en neurosciences, donc est en train de... On a les premiers résultats là et prouve, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas conforte dans cette idée-là. Le performant, lui, il va prendre cette décision très vite de façon inconsciente, qu'on peut appeler de l'inconscience vue de l'extérieur, mais en fait, ce n'est pas de l'inconscience. C'est vraiment de l'inconscient maîtrisé. Donc, premièrement, l'énergie, il déclenche plus vite. Deuxièmement, la conscience totale. Hein, la plupart des performants que j'ai interviewés, j'ai interviewé pour ce livre, interviewé, je ne sais pas si je peux me prendre pour une journaliste, j'ai interrogé, j'ai parlé avec
16 performants.
C'est ça. Et ces personnes-là parlent presque toutes, pour beaucoup, parlent de connexion à l'univers. Et ce n'est pas ésotérique, hein, c'est vraiment... Elles disent, je sens que ma conscience est totale, je suis connectée avec tout. Et tout d'un coup, ça déroule. Et troisièmement, l'autonomie émotionnelle et sensorielle. C'est cette grande autonomie dont font preuve les performants. Il peut y avoir une tempête, ils peuvent être dans une période morose comme celle du Covid. Ils peuvent être vraiment chahutés parce que personne n'est d'accord avec eux, etc. Eh bien, ils vont avoir cette autonomie dans ce que personne ne leur dira, ce qu'ils doivent ressentir ou ce qu'ils doivent penser. Donc, il y a vraiment cette autonomie. Et en fait, ce n'est pas eux qui s'intègrent à un environnement, mais c'est l'environnement qui va les suivre.
Qui va les porter presque. Et
ensuite les porter. C'est ça qui est merveilleux. C'est comme pour la balançoire. La balançoire, au départ, suit le mouvement des jambes. Et puis ensuite, c'est elle qui porte. Et on n'a plus besoin de rien faire. Bien, c'est exactement ça. Le performant va créer une coopération chez des personnes, un certain nombre de personnes. Ça peut être 2, ça peut être 10, ça peut être 1 million si on est Roger Federer, et ensuite il est porté par ce système qu'il a lui-même créé.
Allez, on va faire une petite pause musicale entre deux explications. Fanny Nussbaum, c'est tout à fait passionnant. On va s'aérer un petit peu le cerveau avant de revenir juste quelques minutes, puisque nous parlons de performance individuelle, de ces personnes qui réussissent presque tout et ce qu'elles entreprennent en marquant leur époque. Ces personnes qui semblent posséder quelque chose de plus grand, qui les rend exceptionnels. Nous allons continuer sur ce thème avec un titre qui tombe à point nommé. Alors Fanny, petit blind test, petit quiz. Si je vous dis, j'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire.
Starmania, Bernard Tapie l'a chanté, je crois.
Alors, je ne sais pas.
Bernard Tapie. Mais non, Balavoine.
Balavoine l'a chanté, mais c'est en ça. Effet, le fameux blues du businessman.
Le blues du businessman, tout à fait.
Je vais chanter avec.
Et on revient juste après dans Complètement à l'Ouest.
J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau à Houdun Tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la terre. Je peux pas supporter la misère.
Au moins êtes-vous heureux.
Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de l'humour depuis que j'ai le sens des affaires. Réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire.
Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut.
J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. J'aurais voulu être un chanteur.
crier qui je suis. J'aurais voulu être un auteur pour pouvoir inventer ma vie, pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être un acteur.
Complètement à l'ouest, Philippe Boyer.
Et nous sommes de retour en studio pour la deuxième partie de Complètement à l'ouest. Nous sommes toujours avec Philippe Boyer et en compagnie de Fanny Nussbaum. Merci Fanny d'être avec nous. On parle de la performance aujourd'hui. Et dans votre ouvrage, eh bien, vous nous donnez de nombreux exemples pour étayer vos propos. Et certains viennent à l'encontre de choses qu'on a plutôt bien ancrées. Vous dites par exemple que pour performer, il faut arrêter de réfléchir, moins raisonner, se fier à son intuition. Alors, est-ce que dans nos sociétés hyper cartésiennes et quand même bien rationalistes, on peut vraiment laisser la place à son intuition ?
Disons que l'intuition est à la mode en ce moment, donc je trouve que c'est pas mal, mais le cartésianisme c'est ancré en nous, surtout en nous français, depuis les Lumières, et c'est plus qu'un phénomène de mode, donc je crois pas que ce soit que pour l'instant notre cartésianisme soit supplanté. C'est difficile de dire ça, enfin c'est vrai que souvent, quand on ne voit qu'une interview et qu'on ne lit pas ce que j'ai écrit et qu'on m'entend dire dans une interview à bas le raisonnement, on s'arrête à ça et parfois j'ai des retours qui sont un peu délicats à gérer, dirons-nous. Mais comment, dans cette société où au contraire les gens ne pensent plus et vous les poussez à moins penser encore, c'est une petite délicatesse à gérer. Ce que je dis, c'est que évidemment que je prône le raisonnement, je l'utilise moi-même et je crois énormément. Donc le raisonnement, c'est très bien. Enfin, c'est ni bien ni mal. C'est une capacité qu'on a globalement, on a tous des capacités de raisonnement et c'est très bien d'utiliser le raisonnement quand on fait un apprentissage, etc. Mais justement, quand je dis quand on fait un apprentissage, ça veut dire que c'est en fonction du moment. Il y a des moments pour raisonner et il y a des moments pour arrêter de raisonner. Et quand on prépare quelque chose, quand on prépare une émission comme celle-ci, comme vous l'avez magnifiquement préparée, ou quand on prépare un sujet, quand on apprend, quand on analyse, etc., là, oui, bien sûr que le raisonnement est une grande force et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Mais quand on entre en performance, là, le meilleur truc, c'est d'arrêter de raisonner. C'est de couper le cerveau et le cerveau, ou plutôt le système 2, ou de couper les fonctions de raisonnement qui sont davantage à l'avant du cerveau, et de se lancer et de faire confiance à son inconscient cognitif. Son inconscient cognitif, il faut savoir quand même que c'est 90 à 95% du traitement cérébral. C'est-à-dire que 90 à 95% de notre activité cérébrale se fait de façon inconsciente. Donc, nous, là, ce qu'on est en train de créer quand on est dans cet échange, c'est seulement 5 à 10% de notre activité cérébrale, et derrière, il se passe plein de choses dont on n'est pas conscient, et c'est tant mieux, parce que sinon, on deviendrait fou. Mais quand on veut être en performance, il faut se reconnecter à cette machine qui est si bien huilée qu'elle nous fait en général prendre les bonnes décisions. Parce que le cerveau, il fait des statistiques. Le cerveau, c'est ça son boulot. Stanislas Lehmann l'appelle le cerveau bayésien parce qu'il fait des statistiques en permanence. Il fait des probabilités pour nous dire, et de façon inconsciente pour nous, quel est le meilleur choix à faire. Et la plupart du temps, il ne se trompe pas. Il y a des moments, bien sûr, où il se trompe et on peut appeler ça les biais cognitifs. Mais nous sommes un biais cognitif ambulant, même dans notre conscience, même quand on croit qu'on fait des choix consciemment, etc. Nous sommes victimes de biais cognitifs. Mais en tout cas, quand on fait confiance à son inconscient, on est plus efficace, plus performant que quand on ne lui fait pas confiance et quand on reste cantonné sur son raisonnement, ou plutôt quand on utilise le raisonnement ou on voit le raisonnement comme une fin en soi et pas comme un outil. Beaucoup de Français prennent le raisonnement comme une fin en soi.
Alors, au début des années 2000, il y a eu aux États-Unis la parution d'un livre de management écrit par Jim Collins, Good to Great en anglais, véritable best-seller mondial. En français, ce livre a été traduit et s'est intitulé « De la performance à l'excellence », avec le sous-titre « Devenir une entreprise leader ». Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que l'auteur défend la thèse qu'être une entreprise performante, c'est bien, mais qu'il existe encore un état supérieur, c'est celui de l'excellence. Et au-delà d'être performant, ce qui n'est déjà pas simple à obtenir, en vous écoutant en tout cas, est-ce que l'individu, à l'instar d'une entreprise, peut aussi lui tendre vers l'excellence? Et si oui, en quoi être excellent se distingue-t-il du fait d'être performant?
Je crois que c'est très bien que vous disiez tendre vers l'excellence. En fait, je n'ai pas lu ce livre, hélas, mais je vais me rattraper. Je pense que quand ce monsieur parle de la performance, dans mon modèle, c'est la compétence. Mm-hmm. Donc, on est quand on est efficace, quand on produit de bons résultats, je pense qu'on est en compétence. Par contre, ce que ce monsieur appelle l'excellence, pour moi, c'est la performance. D'accord. Et je vois l'excellence comme plutôt comme quelque chose de philosophique, c'est-à-dire que tous les performants visent l'excellence. Et quand on veut atteindre un niveau de performance, vous et moi compris, eh bien, on doit vouloir tendre vers l'excellence. Et ça m'amène puisque pour moi c'est une question philosophique avant tout. Donc l'excellence, c'est l'idée, c'est l'étoile vers laquelle on veut tendre, et la performance, c'est quand on met en acte pour aller vers ça. Et donc je crois que la performance, quand on veut atteindre créer une performance ou donner du sens à ce qu'on fait, on ne doit pas se poser la question du bonheur. On doit se poser la question, en effet, de l'excellence et du dépassement de soi.
Quand on lit votre livre, on voit que pour être performant, il faut être à la fois réaliste, déterminé, lucide, intuitif, en relation avec notre inconscient, curieux. Est-ce qu'il faut impérativement avoir tout ça à la fois, être tout ça à la fois pour être performant ?
Oui, mais c'est facile, en fait. Pourtant, si, c'est-à-dire que c'est pas laborieux. La performance, la difficulté dans la performance, c'est que c'est d'avoir l'esprit ouvert, et c'est dur d'avoir l'esprit ouvert. En fait, c'est beaucoup plus dur que d'avoir l'esprit fermé, de se dire, par exemple, j'ai fait un truc pour être performante moi-même. Je m'exerce. Alors, sur les réseaux, j'ai posté il y a, je sais pas, une semaine à peu près, une photo de moi nue. Vous pouvez aller voir si vous voulez. Donc quelqu'un a dit en commentaire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour vendre des livres? Vous voyez, et ça, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Je suis tout à fait prête à me prostituer pour vendre des livres. Pour moi, ce n'est pas un problème. Mais c'est ça l'idée de la performance, c'est d'avoir l'esprit ouvert à tout. Et pourquoi pas? Et pourquoi? Et donc, j'ai marqué, je suis une intellectuelle sur ma photo nue. Pourquoi on devrait être, comme on dit souvent, dans des cases? Voilà, ce qui est difficile, c'est de sortir de cette idée de mes mères. Ah ben, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour vendre des livres? Vous voyez ce que je veux dire? Et on l'a tous, ça. Je critique cette personne qui a dit ça, mais ce n'est pas cette personne, c'est cet état d'esprit qu'on a tous à certains moments, de ne pas vouloir sortir de ces carcans mentaux pour justement donner du sens à ce qu'on fait. Donc, ça, c'est la difficulté. Mais tout ce que vous avez cité, la curiosité, tout ça, ça vient avec. Une fois qu'on est lancé, une fois qu'on sort sur la vague, une fois qu'on est lancé sur la balançoire, tout vient avec. Il y a la curiosité, ce que vous disiez, mais tout est là, tout vient tout seul, parce que c'est ce que notre inconscient cognitif nous donne finalement. Il est beaucoup plus curieux que notre système 1.
Pour prolonger ce que vous dites à l'instant, il y a quelque part à la page 145, vous dites, et je vous cite, j'aime voir à l'œuvre une personne en performance. On dirait qu'une œuvre d'art est en train de se créer sous mes yeux. Comment une œuvre d'art peut-elle se créer sous vos yeux quand vous voyez une personne qui est en train de devenir performante ?
C'est-à-dire que... C'est, enfin, alors pour moi qui étudie, qui accompagne l'intelligence depuis 20 ans, quand je vois quelqu'un qui performe, je trouve ça esthétique, je trouve que c'est, ça m'émeut de
voir quelqu'un... C'est la beauté à l'état
pur. Exactement, c'est comme quelqu'un qui, je ne sais pas, qui est un spécialisé en peinture, en art, et qui voit justement cette œuvre d'art qui est en train de se produire. Moi, je vois tout ce que je prône et tout ce que j'aime, tout ce que j'admire chez l'humain, j'aime le dépassement de soi, j'aime cette idée qu'on ait envie de tous aller sur la Lune. Et donc, voilà, quand ça se passe, je suis émue.
Alors, Fanny Nussbaum, votre ouvrage, rappelons-le, se nomme Le secret des performants. Alors, avant qu'on se quitte, puisqu'il est quasiment l'heure maintenant, malheureusement, donnez-nous quelques exercices qu'il nous restera à pratiquer pour tendre vers cet état de performance que vous décrivez. Bref, livrez-nous ces ou ce secret de la performance. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être performant au quotidien ?
Alors, tout est dans le livre, mais il y a un exercice, je vais vous en donner deux. Il y en a un que je donne très souvent en interview, donc peut-être qu'on l'aura déjà entendu ou lu ailleurs, et un autre que je n'aurais dit qu'ici.
Faites-nous ce privilège.
Donc le premier, je vous l'ai dit, hein, ça va vite chez le performant, donc l'esprit va très vite. Donc pour s'entraîner à avoir l'esprit qui va plus vite, parce que ça demande aussi un entraînement, j'ai un truc personnellement, c'est que j'écoute beaucoup de livres audio. Et quand j'écoute des livres audio ou quand je regarde des vidéos, eh bien, je mets en vitesse accélérée en x2. Donc la première minute, c'est un peu space quand même au départ, parce que chez moi, il faut que mon cerveau se réhabitue. Et puis, une fois que mon cerveau est habitué, hop, ça devient facile. Et quand j'écoute ou que je vois une vidéo en vitesse normale, ça me paraît très, très lent. Donc voilà, pour s'entraîner à aller plus vite, il y a la lecture rapide ou il y a l'écoute, l'écoute ou la visualisation de vidéos en vitesse accélérée. Ça, c'est la première chose. C'est un premier élément qu'on peut faire très, très,
Allez,
très facilement.
Deuxième secret,
c'est de se créer des automatismes mentaux. De dire toujours d'emblée oui plutôt que d'emblée non. Vous remarquerez que spontanément, on a tendance, et peut-être nous Français encore plus que les autres, à être dans le non plus vite, à être circonspect, à être sceptique, à vouloir prendre du recul avant de répondre. Ça ne veut pas dire qu'il faille jamais prendre de recul, évidemment, hein, mais pour s'entraîner, en tout cas, à être dans la performance et à avoir justement cet esprit ouvert dont je vous parlais, il convient de dire oui avant non, ou de remplacer le non par le oui. Parce que, en fait, c'est je ne sais pas si je vais la citer correctement, cette phrase de Cioran que je dis dans mon livre, c'est « penser, c'est être en retrait ». Et en fait, comme je vous l'ai dit, la performance, c'est être dans le bain de la vie, c'est être vraiment connecté à son environnement. Donc, quand on pense, quand on se met à réfléchir, on est obligé quand on est circonspect, justement, on est obligé de se retirer du monde pour le voir de l'extérieur. Donc, c'est pas quelque chose qui nous aide à spontanément déclencher vite et aller dans la performance. Donc, oui plutôt que non, c'est tout simple. Hein, vous avez des automatismes mentaux, il vous suffit de les identifier parfois. Quand on vous sollicite, est-ce que tu peux me faire ça, s'il te plaît, spontanément, on a tendance à dire, mais non, pourquoi je le ferais, tout ça. Oui, ok, d'accord, et j'y vais. Donc évidemment, vu que c'est un entraînement, comme tous les entraînements, il faut que ce soit safe, hein, il faut que ce soit dans un environnement où vous savez que ça ne va pas vous mettre en difficulté pour plus tard, c'est un entraînement. Donc oui plutôt que non.
Bien, deux secrets. Merci infiniment Fanny Nussbaum d'avoir été notre boussole pour cette émission passionnante.
Merci.
Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie et chercheur en neurosciences à l'Université Lyon 1 et que vous venez de publier aux éditions Odile Jacob « Le secret des performances ». C'est votre deuxième ouvrage. Le premier, vous l'avez cité pendant cette émission, toujours chez Odile Jacob, s'intitulait « Les philo cognitifs ». Le secret des performants est vraiment à lire pour quiconque s'intéresse aux neurosciences, au management, bref, à l'humain, dans toute sa complexité, ce que nous ne manquons pas de faire, chère Johanna, très régulièrement dans cette émission. Merci Johanna, merci à toute l'équipe de Radio Emo qui a œuvré à la préparation de cette émission et qu'on ne voit pas toujours, qui sont derrière et qui sont en studio. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Complètement à l'Ouest. En attendant, cette émission peut être, comme d'habitude, réécoutée en balado-diffusion sur le site de Radio Imo et sur tous les players de podcasts. D'ici là, bon vent, cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest.
Mais il est complètement fou, ce mec!
Alors promets-moi de pas bouger.
Bon, c'est d'accord.
Complètement à l'Ouest, présenté par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio. Une émission à réécouter et à télécharger gratuitement sur le site radio.imo.